Radio Okapi.
Bonjour madame, bonjour monsieur. Au sommaire de ce journal, Félix Tshisekedi lance un dialogue inclusif pour favoriser la paix et la cohésion nationale en RDC. Le chef de l'État a annoncé sa décision au cours d'une audience accordée aux chefs des confessions religieuses hier vendredi à la cité de l'Union africaine ici à Kinshasa. Autre actualité en Ituri, la coordination de la société civile alerte sur une propagation incontrôlée de l'épidémie d'Ebola. Elle reste encore loin d'être maîtrisée dans cette province, principal foyer de l'épidémie, annonce cette coordination. Notre invité, le professeur Tshibangu Kalala, appelle les autorités congolaises à ne pas fermer les yeux face au massacre commis dans l'est du Congo par les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda. Il lance cet appel alors que le monde célèbre la Journée internationale de la justice. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bon week-end à vous qui avez choisi la radio de la paix pour avoir une information vraie traitée avec professionnalisme. Félix Tshisekedi pour le dialogue inclusif. Le chef de l'État a annoncé sa décision au cours d'une audience accordée aux chefs des confessions religieuses hier vendredi à la cité de l'Union africaine ici à Kinshasa. À l'issue de cet échange, le cardinal Fridolin Ambongo a, au nom de ses collègues, salué cette initiative du président de la République. Le prélat catholique a encouragé tous les acteurs sociopolitiques à soutenir cette démarche qui, selon lui, vise à décrisper la crise politique et sécuritaire en RDC. Le propos de Fridolin Ambongo, recueilli par Blaise Ndongala Mayanda.
À l'issue de nos échanges et face aux enjeux, le chef de l'État, conformément à l'initiative qu'il avait déjà prise en allant trouver ses collègues chefs d'État de pays voisins, a levé l'option d'engager notre pays dans un dialogue entre fils et filles du Congo, un dialogue inclusif, naturellement aux conditions qui se préciseront chemin faisant. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui, au nom de tous mes collègues qui sont ici, les chefs religieux, d'exprimer ma gratitude au président de la République qui, en tant que père d'une nation, d'une famille, s'est surpassé pour prendre cette initiative et inviter tous les fils et filles du Congo à s'asseoir et à se dire ce qui ne va pas. Nous pensons que, après que le président a levé cette option, c'est à nous tous, ceux qui sont au pouvoir, tout comme ceux qui sont dans l'opposition, de s'inscrire dans cette dynamique pour que cette initiative puisse aller de l'avant, porter de fruits, pour que tous les fils et filles du Congo puissent vivre enfin en paix.
Hormis Fridolin Ambongo, quelques autres princes de l'Église ont pris part à cette rencontre, notamment le secrétaire général de la CENCO, Monseigneur Donatien Cholet, le président national de l'Église du Christ au Congo, ECC, le révérend André Bokondoa, le secrétaire général adjoint Eric Nsenga, le représentant des Églises des Réveils au Congo, Ejiba Yamampia, ainsi que le représentant légal de la communauté islamique en RDC, Tchèque Abdallah Mangala. Nous allons vous proposer des réactions de la classe politique, de la société civile et d'autres encore dans nos prochaines éditions. L'actualité, c'est aussi cette alerte de la coordination de la société civile de l'Ituri. La maladie à virus Ebola est hors de contrôle. Elle reste encore loin d'être maîtrisée dans cette province, principal foyer de l'épidémie, annonce cette coordination. Et cela, 2 mois après la déclaration officielle de l'épidémie d'Ebola en RDC. Elle indique que 27 des 36 zones de santé de l'Ituri sont désormais touchées et évoque de nombreux cas suspects ainsi que des décès communautaires qui, selon elle, ne figureraient pas dans les statistiques de l'équipe de riposte. Elle fait cette évaluation après une mission d'évaluation menée dans plusieurs zones de santé et cette structure confirme que l'épidémie continue de s'étendre. La coordination de la société civile avance d'ailleurs les chiffres de 1813 décès dont la majorité serait enregistrée au sein des communautés. Ainsi, elle appelle les autorités compétentes à renforcer les efforts de riposte. Écoutons Dieudonné Lossa, coordonnateur de la société civile de l'Ituri.
À la zone de santé de Nice, 513 cas. Zone de santé de Ruapara, 596 cas. Dans la zone de santé de Nyanya, nous a rapporté seulement les 28 cas de décès. Dans la zone de santé de Mangala, 73 cas de décès. Et dans la zone de santé de Mambasa, 4 cas de décès. Ce sont les cas de décès communautaires, aussi quelques cas de décès de CTE. Par exemple, dans la zone de santé de Ruapara, il y a eu 441 cas de décès communautaires. Donc, dans un échantillon que nous avons ici, on est déjà à 1813 cas de décès en Ituri. Là, nous n'avons pas la situation de Elikia, de l'hôpital général, de Seme, ni de Istembe Nyakunde, de Chomia. On n'en a pas. D'ailleurs, on n'en a pas. C'est pour dire que la situation est grave. On ne contrôle pas Ebola ici en Ituri. Prenons les membres des familles de ces personnes qui sont mortes. Supposons que dans cette famille, il y avait 5 personnes dans le ménage. On aura combien de malades qui sont en train de circuler? Nous imaginons après un mois, ça représentera. Et sur terrain, tout semble être normal. Hein? Rien ne montre qu'il y a problème.
Santé sur une toute autre affaire. Deux policiers traduits en justice par deux médecins. Cela se passe à Kinshasa. Ces blouses blanches, membres du syndicat libre des médecins, ont en effet déposé une plainte jeudi devant l'auditorat supérieur militaire. Ils accusent ces agents de l'ordre de violences policières exercées contre eux lors de leur sit-in devant l'immeuble du gouvernement, immeuble abritant le ministère de la Santé. En tout cas, les médecins victimes de ces traitements dégradants veulent absolument obtenir justice à travers cette démarche, explique le secrétaire général de cette organisation syndicale. Dr André Kasongo regrette également que des policiers aient bousculé et pris à partie, voire insulté et agressé physiquement les médecins qui réclamaient leurs droits. Dr André Kasongo, au téléphone de Blaise Ndongala Mayanda.
Comme vous le savez, les médecins sont en train de réclamer leurs droits. Ils sont partis dans leur ministère pour que leurs droits soient remis en place. Mais curieusement, hier matin, en se réveillant, ils ont été aspergés de l'eau, tabassés par la police commis au ministère de la Santé. Puisqu'ils étaient partis chez le ministre de la Santé. Tabassés, injuriés. Cette humiliation nous a pas laissé indifférents. Nous sommes venus saisir l'auditorat supérieur. Cette flagrance envers l'élite de la nation qui travaille sous stress d'Ebola, qui est victime, il y a même de morts avec l'Ebola, qui est en train de réclamer ses droits, qu'il soit tabassé comme un chien, lynché aux yeux aussi de tout le monde par la police commis au ministère de la Santé. Ils étaient bel et bien au ministère de la Santé, ils ont passé une nuit par refus de leur recevoir par le ministre de la Santé. Nous déposons la plainte à l'auditorat contre le policier. Au cas où il s'avérait qu'il y a un commanditaire, nous allons le poursuivre. C'est-à-dire dans ce pays, le droit existe.
Il faut noter que ce dépôt de plainte intervient dans un contexte de tension sociale marqué par la grève des médecins qui réclament les paiements d'arriérés de salaire, la mécanisation et l'alignement sur les listes de paye des milliers de médecins et l'amélioration des conditions de travail et de la revalorisation salariale. Autre chapitre, le monde a célébré hier vendredi 17 juillet la journée internationale de la justice. Une occasion pour rappeler que la justice internationale reste essentielle pour protéger les droits humains, prévenir l'impunité et garantir la paix mondiale. C'est l'avis du professeur Tshibangu Kalala à l'occasion justement de cette journée. Ce n'est pas tout. Il rappelle aussi que la justice étant une vertu, elle ne doit pas se limiter à des discours politiques, mais se traduire par une véritable pratique. Citant les cas de la République démocratique du Congo, il rappelle aux autorités du pays que la RDC a été créée pour instaurer la justice dans la société. Tshibangu Kalala, professeur de droit international et spécialiste en droit public, revient sur les bien fondés de la justice internationale au téléphone de Ronéline Thibonera.
On insiste sur l'instauration de la justice internationale. Pourquoi ? C'est pour faire en sorte qu'il y ait la paix et la sécurité dans le monde. Qu'un État qui a des difficultés avec un autre État puisse s'adresser à un juge qui va appliquer le droit international pour trancher le différend. Il en est de même de la RDC. Ça, c'est sur le plan international, mais sur le plan interne, pour la RDC, c'est très important qu'il faut rappeler que la justice, c'est la lumière de la RDC. La justice, c'est la fondation de l'État. Ce n'est pas pour rien que dans la devise de la RDC, on commence par justice. Justice comme vertu. Il faut respecter les Congolais, respecter leurs droits, leur dignité. Un Congolais qui a tort, il faut dire qu'il a tort. Et lui qui a raison, il faut dire qu'il a raison. Donc c'est très important de rappeler à chaque instant que même l'État congolais a été fondé, en fait, pour instaurer la justice dans la société. Et ce n'est pas pour rien, je tiens encore à le rappeler, que notre devise commence par justice.
Des défenseurs des droits humains outillés en ce qui concerne les mécanismes de la justice internationale et leur rôle dans la lutte contre l'impunité. Ils se sont penchés hier vendredi à Beni sur cette question à l'occasion toujours de la Journée internationale de la justice internationale. Au cours de cet atelier de renforcement des capacités initié par le Centre d'études pour la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme, CEPADO, les organisateurs ont estimé que ces instruments peuvent contribuer à renforcer les efforts de justice pour les victimes des graves violations des droits humains commises dans l'Est de la République démocratique du Congo. Omar Kavota, coordonnateur national de CEPADO, explique au micro de Marc Marofimbo.
À l'occasion de cette journée internationale de la justice internationale, observée sous le thème « La justice, une affaire de tous », nous considérons que c'est une opportunité pour rappeler la communauté internationale dans son ensemble qu'il est temps que la justice soit une affaire de tous et alors de tous les Congolais. Parce que au regard de ce qui s'observe dans le province de l'Est, il faut qu'on arrive à y mettre terme. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, auxquels on fait face dans le province de l'Est, au Nord Kivu, au Sud Kivu, en Ituri, œuvre de la coalition AFC-M23-RDF, œuvre des terroristes ADF-MTN, ceci doit s'arrêter. Il est temps que la CPI vienne au chevet de la justice congolaise pour accompagner les efforts de la justice de la RDC afin de mettre terme à cette impunité. Au-delà de la CPI, la justice congolaise doit s'activer pour documenter les faits, pour interpeller le moment venu ou à Tahiti-il les auteurs des différents crimes. Et nous pensons que c'est possible. Il y a l'espoir pour que la justice soit une affaire de tous.
Les participants, tous engagés dans la défense des droits humains, ont été appelés à renforcer la documentation des violations et à mieux maîtriser les mécanismes de recours internationaux. Selon les organisateurs, ces compétences sont essentielles pour contribuer à la lutte contre l'impunité et promouvoir l'accès à la justice pour les victimes des graves violations des droits humains en RDC. Sécurité est sur le terrain cette fois. Le mouvement citoyen observatoire d'action parlementaire et gouvernementale, OBAPEG, attire l'attention des autorités sur la détérioration de la situation sécuritaire sur l'axe routier Bukavu-Walungu-Mwenga au sud Kivu. Selon cette structure, les attaques visant les véhicules, les passagers et leurs marchandises deviennent de plus en plus fréquentes. La dernière attaque signalée s'est produite sur l'axe Bukavu-Walungu-Mwenga, précisément à Kankinda. Lors de cet incident, des commerçants ont été dépouillés de leurs biens et des femmes ont été violées. Cet acte est condamné par Bahati Nchirimwami, l'un des militants de ces mouvements, qui appelle à une action renforcée pour protéger les civils. Il est joint par Ronelli Ntibonera.
Ces véhicules sont braqués au niveau de Kasiru Kidodobo, à Kaimbari, dans la chefferie de Ngueshe et Kabare. Plusieurs commerçants ont perdu le leur, d'autres violés par ce bourreau. Le mouvement Sitobapej RDC Noyau de Mugogo sollicite l'implication des autorités en place pour la sécurité de la population et de leurs biens. Il est à signaler que ces hommes en armes attaquent ces véhicules sur cette route chaque mardi, mercredi et samedi et dimanche pour attaquer les commerçants qui proviennent au marché de Kankinda, Mugogo et ceux qui viennent au marché de Mudwanga à Walungu. Vraiment, nous sollicitons aux autorités en place de nous venir en aide pour sécuriser la population et de leurs biens.
Larry Bumba va-t-il, oui ou non, renaître de ses cendres? Série consommée pendant longtemps dans les ménages congolais. En tout cas, une nouvelle ambition prend forme là où elle a commencé, c'est-à-dire à Bumba, dans la province de la Mongala. plus encore, elle veut faire de ces riz locales un moteur de développement économique et de souveraineté alimentaire. Le projet Riz Bumba Losonabiso vise donc à structurer une filière rizicole capable d'augmenter la production, de créer des emplois et d'améliorer les revenus des producteurs. Il est porté par le gouvernement congolais à travers les ministères de l'économie nationale avec l'accompagnement du Fonds de régulation économique et mis en œuvre par la société rizicole de Bumba, filiale dont Plantation et Huilerie du Congo. D'autres détails dans cet élément de Grâce Hamzati, rendu par Magloire Landoumayemba.
À Bumba, dans la province de la Mongala, les paris est lancé. Produire davantage des riz congolais pour répondre aux besoins du marché national. Baptisé Riz Bumba Losonabiso, ces projets ambitionnent de faire émerger une filière rizicole moderne, compétitive et durable en République démocratique du Congo. Prévu sur 5 ans, de 2026 à 2030, il prévoit l'accompagnement de près de 30 producteurs partenaires, la création des 7 unités de transformation rizicole et l'objectif d'atteindre 250 000 tonnes de riz produites à l'horizon 2030. Au-delà des objectifs de production, le promoteur affirme miser sur la transformation de l'économie rurale à travers la création d'emplois, l'amélioration des revenus des agriculteurs et une plus grande participation de femmes et de jeunes dans la chaîne de valeur agricole. Il souligne qu'avec Riz Bumba Losonabiso, l'ambition est de valoriser les potentiels agricoles de la Mongala et de contribuer progressivement à réduire la dépendance de la RDC aux importations de riz.
Actualité internationale.
Guerre au Moyen-Orient, la violence des échanges de frappes entre États-Unis et Iran est montée d'un cran vendredi 17 juillet avec des installations civiles iraniennes touchées. Difficile d'imaginer une sortie de conflit sans négociation de paix, mais la marge de manœuvre américaine est réduite par l'Iran qui conserve une certaine capacité de nuisance. Une analyse de Thibaut Fouillet, directeur scientifique au Centre d'analyse et de prévision des risques internationaux.
L'invité.
Vous avez compris, l'heure est à notre invité du jour. Le professeur Tshibangu Kalala appelle les autorités congolaises à ne pas fermer les yeux face au massacre commis dans l'est du Congo par les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda. Il lance cet appel alors que le monde célèbre la Journée internationale de la justice. Pour lui, au même titre que les dirigeants mondiaux comme Vladimir Poutine sont poursuivis par la justice internationale pour des crimes commis en Ukraine, les dirigeants régionaux doivent également répondre de leurs actes devant la Cour internationale de justice. Professeur Tshibangu Kalala s'entretient avec Ronéline Tibonera autour de l'importance de la justice internationale. Suivez.
Professeur Tshibangu Kalala, bonjour.
Oui, bonjour.
Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale de la justice. En peu de mots, quelle est l'importance de cette journée pour le monde d'abord et pour la République démocratique du Congo ensuite?
Oui, merci pour cette question. Commençons d'abord par nous mettre d'accord sur le terme justice. Qu'est-ce que signifie justice? La justice, au-delà de... c'est un terme qui comporte plusieurs significations en termes d'institutions judiciaires, nationales ou internationales, mais retenons le sens de vertu. La justice, c'est une vertu. La justice, c'est la lumière du monde. La justice signifie qu'il faut donner à chacun, à chaque être humain, ce qu'il mérite. Celui qui a tort, il faut dire qu'il a tort. Celui qui a raison, il faut dire qu'il a raison. Et il y a des institutions qui sont établies pour faire ce travail-là. Donc aujourd'hui, c'est une grande journée pour tous ceux qui sont épris de justice. Et sur le plan international, on fait en sorte que les États ne puissent pas se faire la guerre. Si des États sont en conflit, eh bien, ils doivent s'adresser à une juridiction judiciaire établie pour soumettre leurs différends, leurs conflits, devant des juges qui sont censés être indépendants et impartiaux. C'est ainsi que dans le cadre des Nations Unies, il y a un organe judiciaire principal de l'ONU qu'on appelle Cour internationale de justice. C'est un organe principal, au même titre que le Conseil de sécurité, que l'Assemblée générale ou le secrétariat, par exemple. Et donc, on insiste sur l'instauration de la justice internationale. Pourquoi? C'est pour faire en sorte qu'il y ait la paix et la sécurité dans le monde. Qu'un État qui a des difficultés avec un autre État puisse s'adresser à un juge qui va appliquer le droit international pour trancher le différend.
Professeur Tshibangu Kalala, vous évoquez plusieurs paramètres, mais s'il faut revenir sur l'actualité, pensez-vous que la justice internationale est encore intéressante ou importante pour la République démocratique du Congo, surtout en cette période?
Oui. Le Congo, c'est un élève modèle de la justice internationale. Vous savez, au cours des dernières années, le Congo a saisi, par exemple, la Cour internationale de justice a plaidé devant cette Cour dans l'affaire Congo contre la Belgique, l'affaire Yerodia, Congo contre la Guinée, qu'on a créé, affaire Amadou Sadio Diallo, Congo contre le Burundi, Congo contre le Rwanda, Congo contre l'Ouganda. Et donc, le Congo, c'est notre pays, c'est un élève modèle, exemplaire, en matière de justice internationale. Je peux ajouter également que sur le plan pénal, le Congo a été pratiquement le premier pays à déférer des Congolais devant la Cour pénale internationale, soupçonnés d'avoir commis des crimes internationaux, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité ou crimes de génocide. Je peux citer le cas de Germain Katanga, de Thomas Lubanga, etc. Donc, sur tous les plans, le Congo a été un modèle, soit pour la justice civile ou la justice pénale, le Congo a été un élève modèle. Je saisis cette occasion, à partir des questions que vous me posez, pour dire qu'aujourd'hui, nous avons un problème sérieux, monsieur le journaliste, avec un État voisin, le Rwanda. Vous savez, un pays puissant, une grande puissance, comme la Russie, eh bien, le président Poutine a été poursuivi, et même il est poursuivi actuellement, devant la Cour pénale internationale. Pourquoi? Parce que on avait déporté des enfants ukrainiens vers la Russie. Ces enfants n'étaient pas tués. On a juste fait la déportation. On les a déplacés. Poutine se défend en disant non, on a voulu évacuer ces enfants des zones de guerre pour qu'ils ne soient pas tués. Mais parce que on a considéré que c'était un crime de guerre, la déportation des enfants, Poutine est poursuivi devant la Cour pénale internationale. Eh bien, nous avons le Rwanda, le président Kagame, avec ses assassins, qui tuent les Congolais matin, midi, soir, avec des preuves à l'appui, avec des documents. Mais Kagame continue à se promener. Et donc, je saisis cette occasion pour demander au gouvernement congolais d'insister, de faire beaucoup de bruit, de mobiliser l'opinion internationale pour que M. Kagame et ses assassins soient poursuivis devant la Cour pénale internationale. Et la justice internationale est très importante. Il faut tout faire pour que la justice internationale continue à fonctionner normalement.
Professeur Tshibangu Kalala, nous disons merci.
À moi de vous remercier.
Et c'était donc notre invité, le professeur Tshibangu Kalala, qui s'entretenait avec Ronelyne Thibonera autour de l'importance de la justice internationale. Voilà qui met fin à cette grande édition du journal parlé du matin, préparée pour vous par Lévin Bouingavoubou et mise en onde par Jean-Claude Ntsala Mwanama Kengontswalu. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.